nous sommes le 7 avril 2022. Tout de suite, les titres du journal présentés par Charlotte Folana. Bonjour Charlotte.
Bonjour Béni, bonjour à tous. À la une ce jeudi, on sera en direct du tribunal de police avec notre journaliste Charlie René pour le jugement d'Edouard Fritsch et Théali Alpha sur l'affaire du mariage. On découvrira des sacs écologiques en fibre de bananier made in Fénois et on parlera d'un ouvrage sur le nucléaire au Fénois.
Et tout de suite, on parle de l'affaire du mariage, enfin jugée.
Et oui, ce jeudi matin, Edouard Fritsch et Théali Alpha comparaissaient devant le tribunal de police pour plusieurs faits d'infraction à la réglementation sanitaire lors du mariage du 5 août 2020 à Teva et Utah. Les peines maximales ont été requises. Notre journaliste Charlie René a assisté à l'audience ce matin. Vous êtes en direct avec nous. Bonjour Charlie.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Oui, les peines maximum ont été requises, vous l'avez dit. En tout cas, les peines prévues par les contraventions retenues lors de l'enquête, Charlotte. Une enquête qui s'est basée sur de nombreux interrogatoires, mais surtout sur les photos et vidéos postées par les convives du mariage de Théali Alpha. Alors le procureur et le juge ont chacun replacé les choses dans leur contexte. En pleine explosion des cas de Covid, les règles sanitaires se durcissent fin juillet et les plans de mariage de l'ancien vice-président, qui avait prévu d'inviter 520 personnes sur le motu Ovini, sont remis en question. Interrogé par écrit, le haut commissaire lui refuse une dérogation pour la fête, mais indique le 3 août qu'un repas peut se tenir dans le cadre du protocole sanitaire des restaurants. Il a fermé la porte, mais il lui a montré la fenêtre, a estimé Stanley Cross, l'avocat des gérants du Gauguin, qui malgré certaines réticences ont prêté gracieusement le restaurant au tabac de la commune. Le protocole sanitaire, lui, a été joyeusement oublié. Plus de 400 invités, plus de les masques qui tombent au milieu de la journée. La musique à la fête avec un orchestre, vous le savez, auquel ont participé Edouard Fritsch ou Michel Buillard. Bref, l'anarchie sanitaire, comme le dit le procureur, qui appelle le juge à tenir compte des responsabilités des deux hommes dans les peines. Le mariage a démobilisé la population dans la lutte contre le Covid, insiste le magistrat, qui demande donc 6 amendes au tarif maximum pour Théali Alpha. Soit plus de 535 000 francs et 350 000 francs d'amende pour le président Fritsch. Le tribunal de police ne rendra pas sa décision avant le 2 juin, Charlotte.
Edouard Fritsch et Théali Alpha étaient présents ce matin au palais de justice. Comment se sont-ils défendus, Charlie ?
Eh bien, on peut parler d'une défense à minima, pas d'avocat ni pour le ministre ni pour le président. Ils reconnaissent l'essentiel des faits. Théali Alpha a surtout insisté sur le fait qu'il était le seul organisateur de la cérémonie, demandant donc la relaxe pour les propriétaires de l'établissement et aussi pour le président du pays, invité qui n'était pas obligé de venir, précise-t-il. Il n'était pas obligé non plus de prendre la guitare sur scène au milieu de la journée, mais le président, plus défensif que son ministre, s'est dit laissé emporter par la situation. Il reconnaît des imprudences, mais demande au juge une analyse humaine et non politique du dossier. Quant au troisième prévenu, Géraldine Cowan, une des co-gérantes du Gauguin, elle a expliqué n'avoir pas été consultée par sa famille sur le prêt du restaurant et a expliqué que si elle avait pu choisir, elle aurait préféré ne pas accepter cette cérémonie auquel elle n'a pas participé. Le procureur a tout de même requis 550 000 francs d'amende pour la co-gérante. Preuve que l'affaire est toujours sensible. Aucune de ces personnes n'a voulu faire de déclaration après l'audience, Charlotte.
Merci Charlie d'avoir été avec nous en direct du Palais de Justice pour suivre cette affaire. Et les peines, on vous le rappelle, seront prononcées le 2 juin prochain.
Et 10 milliards de francs pour lutter contre la hausse des prix.
Face à l'inflation galopante, Yvonique Raffin a présenté hier les premières mesures d'un plan de sauvegarde du pouvoir d'achat. En plus des 3 à 7 milliards de francs dépensés pour stabiliser le prix des carburants, le pays prévoit 1 milliard pour maintenir le prix du pain. Il va exonérer davantage de matériaux et de produits de consommation et élargir la liste des PPN. Au total, c'est 10 milliards de francs qui devraient sortir des comptes publics sur un an pour cette lutte contre l'inflation. Et même si le gouvernement assure déjà depuis plusieurs mois qu'il se serre la ceinture, ces fonds devront être trouvés dans les budgets existants, assure le ministre des Finances.
Il n'est pas question pour nous de taxer en plus, au contraire. C'est d'abord, nous verrons des conférences budgétaires, regardez où est-ce qu'on peut venir chercher dans nos budgets déjà, de fonctionnement, et ensuite reprendre ce qui peut être repris dans nos réserves budgétaires, financières. Si on fait ça déjà, on pourra effectivement, je pense, absorber ces 10 milliards.
Des propos d'Yvonique Raffin recueillis par Charlie René. Toutes les annonces du gouvernement sont bien sûr à retrouver sur notre site radio1.pf.
Question maintenant, qui est le poids lourd des marchés publics ?
En Conseil des ministres hier, une cartographie des dépenses relevant du code polynésien des marchés publics a été présentée pour l'année 2021. C'est Boyer qui obtient la plus grosse part, absorbant 5,4 milliards de francs sur un total de près de 30 milliards, suivi par l'Institut Louis Mallard, Interroute et GES BTP ECI et JL Polynésie dans le top 5, absorbant 40% des dépenses relevant des marchés publics.
Et puis des tensions entre des commerçants et un SDF.
Mardi et mercredi, un homme sans domicile fixe s'en est pris à un couple de commerçants du front de mer, endommageant leur vitrine à coups de pavé. L'homme a l'habitude de leur demander de l'argent, mais devient agressif quand on lui le refuse. Les explications de Marla Oubiré.
Un premier pavé envoyé dans une porte, puis deux dans une vitrine, des poubelles renversées sur la chaussée et des agressions verbales à répétition, la boutique a passé 2 jours rideau baissé. Et après une plainte déposée mardi, ce n'est qu'hier que le procureur a finalement demandé sa mise en garde à vue. L'homme est sans domicile fixe depuis au moins 6 ans, victime de violences familiales dans son enfance, prostitué occasionnel. Il ne supporte pas la frustration, explique Père Christophe qui le connaît bien. Selon lui, l'hôpital n'en veut plus car il n'a pas de troubles psychiatriques. Mais il s'inquiète aussi des conséquences que pourrait avoir une incarcération sur cet homme instable.
Mercredi soir, il a été amené aux urgences pour la seconde fois. Le parquet a finalement demandé à la police de le placer en garde à vue avec l'aval du corps médical. Ce fait divers pose une fois de plus la question de la place de ces personnes exclues de la société.
Des sacs écologiques en fibre de bananier made in Fénois.
Ce sont Ayana Champo et YoTV Mandiola qui ont eu l'idée. Lassés de voir traîner dans la nature des emballages plastiques, ils ont lancé Biobas Tahiti, une société qui propose des emballages éco-responsables entièrement made in Fénois, avec la première gamme de biobags en fibre de bananier. Les créateurs se sont inspirés du processus de fabrication du papier artisanal. Si aujourd'hui les sacs en fibre de bananier sont faits à la main de manière artisanale, le couple espère à terme trouver un atelier pour développer sa petite entreprise. L'objectif de Biobas Tahiti est d'élargir sa gamme et sa production.
Notre objectif à long terme, c'est vraiment d'élargir notre gamme à tout type de produits, d'élargir aussi nos fibres, enfin nos ressources. On a envie d'utiliser la fibre de canne à sucre, la fibre d'ananas et pouvoir les appliquer à d'autres produits, parce que peut-être ça ne convient pas pour les sacs, mais ça va convenir pour autre chose. Tous nos buts, c'est vraiment d'arriver à utiliser nos ressources pour nos produits locaux.
Le plus gros biobag peut contenir jusqu'à 6 kg, il peut supporter la pluie et se dégrade aussi rapidement sans impact négatif sur la nature. Le couple cherche aussi un biochimiste qui pourra intégrer l'équipe pour continuer leurs recherches.
Puis des bombes en Polynésie, la première grande synthèse sur l'histoire des essais nucléaires.
Issu d'une commande du pays préalable à la table ronde Rekotika, le livre a bénéficié de la déclassification des archives militaires. 15 chercheurs y ont eu accès et ont fait des découvertes importantes, particulièrement sur le manque de maîtrise des risques par l'armée. On écoute l'un des deux directeurs de l'ouvrage, Renaud Mels.
Dans un tel volume, les découvertes sont assez importantes. Elle permet de documenter comment l'État, on est dans une logique d'illusion, on peut dire, de contrôle des risques, des aléas, l'aléa météo, l'aléa de la puissance de la bombe. Mais cette illusion a fait que, dès le premier tir, les militaires ont malheureusement rencontré les limites de leur modélisation. On le savait, mais on peut maintenant documenter d'une façon beaucoup plus précise la façon dont les militaires se sont trouvés très surpris par les retombées sur les gondées qu'ils n'avaient pas prévues.
Le livre s'intéresse aussi aux réactions locales et régionales, aux risques naturels et à l'impact du CEP sur l'environnement, au rôle de Greenpeace, aux réponses artistiques et littéraires et bien sûr aux indemnisations. Un colloque sera organisé au mois de mai à Tahiti en présence de plusieurs des auteurs du livre, à savoir également le ministère des Armées va financer un contrat doctoral de 3 ans pour l'écriture d'une thèse à partir de ses archives récemment ouvertes. Renaud Meltz espère qu'il sera attribué à un jeune doctorant polynésien. Des bombes en Polynésie aux éditions Vendémiaire, cela sort aujourd'hui en librairie.
Et pour finir cette édition, un hommage à Esther Tefana le 29 avril.
Elle a réalisé 27 albums en 40 ans de carrière. L'œuvre d'Esther Tefana a marqué l'histoire de la chanson polynésienne et du Tahiti Belle Époque. On connaît forcément Tabou ou encore Aile Maina depuis 1964 où elle a enregistré son premier 33 tours Anou jusqu'à son décès l'année dernière. C'est pourquoi le ministère de la Culture a décidé de lui rendre hommage à l'occasion de la 4e édition du concert Toi Roho. Peterson Cowan, qui a assuré la direction artistique, est très impatient.
On a hâte d'y être parce que pour nous, c'est important de pouvoir partager enfin tout ce qu'on a créé et de présenter enfin à la population le travail ou la participation de chacun pour cet événement de concert. Je ne sais pas si on est proche du poulet, mais c'est un moment de belle communion artistique, humaine et d'émotion.
21 chansons seront interprétées, accompagnées de l'Orchestre Philharmonique du Conservatoire Artistique de Polynésie, dirigé par Frédéric Rossini. Les artistes ont fait le choix de respecter la tonalité d'Esther Tefana. Ce sera aussi un gros moment d'émotion, à en croire Teiva Elsé.
Esther était une amie de la famille, une des grandes amies de ma grand-mère. J'ai eu la chance de pouvoir chanter avec elle, j'ai eu la chance de pouvoir faire un titre avec elle sur un de mes albums. Donc c'est un privilège pour moi d'être présent à ce concert. Donc voilà, un énorme remerciement à TFTN et au conservatoire parce que ouais, ça me prend au trip, vraiment. Depuis que j'ai l'info, depuis que j'ai eu l'invitation, je pense qu'à ce moment-là en fait. Et à chaque fois qu'on est en répétition avec le conservatoire et tous les amis chanteurs, c'est 2 heures intenses et 2 heures de plaisir à chaque fois. À chaque fois, et on a hâte la date.
La billetterie est ouverte aujourd'hui à la Maison de la Culture. Rendez-vous donc le 29 avril à Toahata. Tous les détails sur notre site radio1.pf. Et puis côté spectacle, toujours, sachez que les 2 représentations à cœur ouvert de Jal prévues ce jeudi et ce vendredi sont complètes. Mais vous pourrez toutefois retrouver des extraits de sketchs de l'humoriste sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Le retour de l'information, ce sera avec Caroline Perdry tout à l'heure pour le Flash Local à 16h.
Merci Charlotte, à demain.